France Musique. Tour de chant, Martin Penney.
Je monte sur les planches et vous venez me voir.
Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire.
Aujourd'hui, il y a 100 ans, la Revue Nègre. Les évocations récentes et très décalées de la création de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées en 1925 nous donnent l'occasion, dans Tour de chant, de revenir autant que faire se peut à la réalité historique en s'appuyant sur les documents d'époque, notamment le programme original de toute rareté. Chacun le sait, ce spectacle a permis la révélation de Joséphine Baker, une artiste de musical venue d'Amérique qui a électrisé le public par sa silhouette exotique, sa jeunesse dévergondée et la nouveauté de ses danses syncopées, en particulier le Charleston. Joséphine MacDonald est née en juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, d'une mère noire et d'un père blanc, eux-mêmes artistes. Sa mère musicienne et danseuse est d'origine martiniquaise, son père guitariste est d'origine espagnole. Élevée par sa grand-mère et sa tante, Joséphine devient une enfant des rues. Surnommée Tumpy, c'est là qu'elle apprend à danser toutes sortes de pas, comme celui dit « les jambes de caoutchouc ». Rêvant de spectacle, elle danse aussi à l'église et gagne son premier cachet dans un concours de cakewalk. En juillet 1917, de violentes émeutes raciales ont lieu dans le quartier noir de la ville de Saint-Louis, un épisode tragique que Joséphine n'oubliera jamais. À 12 ans, elle vit de petits boulots et apprend à jouer du trombone avec les musiciens ambulants du Jones Family Band. En 1919, Joséphine va très souvent voir la troupe de théâtre de vaudeville Dixie Steppers de passage à Saint-Louis. Elle tente sa chance auprès du directeur Bob Russell et finit par obtenir un engagement comme figurante. Lorsque la troupe quitte la ville, Joséphine la suit sans prévenir sa famille qui ne s'en émeut guère. Au cours d'une longue tournée dans le sud des États-Unis, elle se forge un style en faisant des grimaces et en roulant des yeux. Mais à la fin de la tournée, la troupe finit par être licenciée. Restée à Philadelphie, Joséphine épouse un jockey noir, Willie Baker, dont elle divorcera secrètement 5 ans plus tard, mais conserve son nom pour la scène. Au Dunbar, le théâtre noir de Philadelphie, elle admire le spectacle « Shuffle Along » monté par Noble Sissel et Hubie Blake. Elle demande à être engagée comme danseuse, mais elle est trop jeune. Elle décide alors de tenter sa chance à New York et tombe sur un théâtre de la 63e rue dont l'affiche présente à son tour, depuis le mois de mai 1921, « Shuffle Along ». Joséphine harcèle la production pour être engagée dans la seconde troupe du spectacle, destinée à la tournée de province. On ne lui propose qu'un rôle d'habilleuse, jusqu'au jour où elle remplace au pied levé l'actrice malade dans le rôle de Funny Girl, la petite qui louche et amuse le public. Le manager du spectacle, Al Meyer, finit par l'engager à l'été 1922 dans la troupe de New York aux côtés de Noble Sissle, Yubi Blake et Florence Mills.
Première musical comedy à Broadway, avec les artistes entièrement noirs. Miller and Lyle, Sissle and Blake, quand ils chantent tous les soirs, je les entends avec tant plaisir et admiration. J'adore quand ils disent For I'm just wild about Harry, Harry's wild about me. The heavenly blisses of his kisses fills me with ecstasy. He's sweet as chocolate candy, sweet as honey from the bee. For I'm just wild about Harry, and he's just wild about Lady G, quelle merveille, quelle chanteuse extraordinaire, elle chante d'amour. Et naturellement, elle est amoureuse, autrement elle ne pouvait pas chanter aussi bien, j'en suis sûre. Je l'entends avec tant de plaisir. Love will find a way. Those skies thou are gray, my dearie, mark what I say, my dearie, mark what I say.
Repris par Joséphine Baker lors de son spectacle à Bobino en 1975, pour célébrer ses 50 ans de carrière à Paris, nous venons d'entendre « I'm just wild about Harry » et « Love will find a way », les deux principaux airs de Shuffle Along, le spectacle qu'il a vu débuter à New York en 1922. Première production de Broadway montée par une troupe entièrement composée d'artistes noirs, cette revue signée Noble Sissle pour les lyriques et Yubi Blake pour la musique constitue une date dans l'histoire du théâtre musical afro-américain. Voici un extrait de ce spectacle enregistré en 1921 par Yubi Blake and the Shuffle Along Orchestra. En juillet 1922, Maurice Chevalier effectue un voyage d'études à New York avec Miss Tinguette, son ancienne partenaire et maîtresse, en vue d'une éventuelle reprise outre-Atlantique de l'opérette Dédé, qu'il a triomphalement créée à Paris 8 mois plus tôt. Il se lance donc dans une découverte des musicals et des artistes américains. Sa première visite est pour le théâtre de la 63e rue où se joue Shuffle Along, dont le succès avait déjà eu des répercussions à Paris. Maurice livrera dans ses mémoires ses impressions. Cela ne s'arrêtait pas. Trépidant, dynamique, incessant, le rythme ne permettait même pas aux artistes de saluer après un numéro réussi. Tout s'enchaînait dans une ronde endiablée. Parmi les girls qui étaient représentées par de jeunes danseuses noires, je remarquais une dont le corps presque nu avait d'étranges attraits. Son visage convulsé, contorsionné, avait soudainement des détentes ravissantes. Sur le programme, son nom mélangé à ceux des autres danseuses était Joséphine Baker. Quelques années plus tard, elle devait conquérir Paris par ses mêmes qualités qui me l'avaient fait remarquer ce soir-là au milieu des Colored Girls. Dépassant les 500 représentations, Shuffle Along lance la carrière de plusieurs artistes. Joséphine Baker, Adelaide Hall, Florence Mills et Paul Robson. La troupe part ensuite en tournée à travers l'Amérique durant plus d'un an. Puis, à l'automne 1924, Joséphine Baker joue dans Chocolate Dandies, des mêmes auteurs, Noble Sissle et Hubie Blake, donné au New Colonial Theatre de New York et paraît cette fois au devant de la scène. Moins durable que Shuffle Along, puisqu'elle ne tiendra l'affiche que durant 3 mois, cette nouvelle production d'une troupe noire séduit néanmoins les critiques qui relèvent son caractère extrêmement pittoresque. Le sujet est une satire des Noirs qui veulent imiter les dandies blancs. Le nom de Chocolate Dandies sera d'ailleurs repris par différents orchestres noirs de jazz américains des années 20 jusqu'aux années 40. Son succès vaut à Joséphine d'être engagée quelques mois plus tard au célèbre cabaret The Plantation, aux côtés de son idole Ethel Waters, que voici dans un de ses succès de 1925, Sympathetic Dan.
Mr. Brown, the loving man from Tennessee. He's got a rep, cause he's chock full of pep. Haven't you heard about his pedigree? He's loving and tender and kind, and his equal is hard to find. He's sympathetic Dan, that tender-hearted man. Does everything he can to please a girl. Put him among the skirt, he gives until it hurts. And any widow dressed in black can take his shirt right off his back. He's kind-hearted like a little child. He's so kind-hearted to women who are wild. The lonesome mama states he sympathizes great. What a soothing man is Sympathetic Dan. Why, Sympathetic Dan, that tender-hearted man, does everything he can to please a girl. He's proven such a friend to tired businessmen. He calls upon neglected wives and brightens up their weary lives. He's kind-hearted when they start to weep. He's so kind-hearted, he rocks them off to sleep. Such tender care he'll use, he never leaves a bruise. What a soothing man is Sympathetic Dan.
C'est dans ce cabaret situé à Broadway, ce Plantation Club, affichant des artistes noirs, que Joséphine Baker, à peine âgée de 19 ans, est remarquée par Caroline Dudley. Riche américaine francophile et passionnée de musique de jazz, cette dernière cherche des artistes pour une production destinée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Fille d'un gynécologue de Chicago, elle s'est mariée jeune avec un attaché de l'ambassade parisienne des États-Unis. En 1924, elle a fait la connaissance d'André Daven, acteur de cinéma et bientôt directeur artistique du Théâtre des Champs-Élysées. Ce célèbre établissement de l'avenue Montaigne, inauguré en 1913, a connu dès le départ des soirées tumultueuses comme celle de la création du Sacre du Printemps de Stravinsky et Nijinsky. Repris en 1920 par le mécène Rolf Demarais et le directeur Jacques Héberto, le théâtre a hébergé durant 4 saisons les ballets suédois du chorégraphe Jean Borlin. Après le départ d'Héberto, Rolf Demarais a lancé depuis le mois d'avril 1925 la formule du Champs-Élysées Music Hall sous la direction artistique d'André Daven. Avec une affiche renouvelée tous les 15 jours, André Daven présente des programmes éclectiques d'attractions mêlées de tours de chant, de danse et de scènes de théâtre. Les ballets de Loy Fuller, le chanteur Mayol, l'acrobate travesti Barbette, le poète Maurice Rostand ou encore Colette dans une causerie sur son expérience du music hall. En juin 1925, le programme fait une belle place à Jenny Golder, vedette internationale de music hall d'origine australienne, devenue la coqueluche des Parisiens, avec son drôle d'accent, son sens du comique, son élégance et ses danses endiablées. Promue meneuse de revue au Palace en 1926, elle se suicidera 2 ans plus tard à la suite d'un chagrin d'amour. La voici dans un titre tiré de sa modeste discographie qui se limite à 8 phases de 78 tours plutôt rares, gravées à l'automne 1926 chez Pathé et chez Odéon.
éclaira mon auditoire. Quand je chantais tout mon répertoire, devant les décors, je faisais des efforts pour que l'on me critique encore. Soit je tremble des mois, mesdames, voici pourquoi. Je sais que j'ai une amour dans la salle, et je sens qu'il me dévore ses yeux. Est-il au fauteuil, au balcon, au stade? Je l'ignore, mais c'est délicieux. C'est peut-être un kéfir, c'est peut-être un nègre, un gros tontino ou un petit tout maigre. Est-ce vous, monsieur, est-ce vous? Je le cherche partout. Si vous êtes là, je veux savoir où. Celui-ci a une bien jolie bouche, y'a un petit ennui, je crois qu'il luche. Celui-ci de beaux yeux, mais ça c'est curieux, qu'est-ce qu'il a poupé ses cheveux? Où est-il ma passion? Point d'interrogation. Je sais que j'ai un amour dans la salle. C'est peut-être la marche en programme du promenoir. Puisqu'il m'a écrit sur une carte postale qu'il était ici sur les soins. Il m'aime et n'a pas osé me le dire, mais tous les soirs il est pas à me crire. Est-ce vous, monsieur, est-ce vous? Je le cherche partout. Si vous êtes là, je veux savoir où.
Mais les recettes de cette formule musicale ne suivent pas. Et le directeur du théâtre des Champs-Élysées, André Davenne, s'est laissé persuader par le peintre cubiste Fernand Léger de s'inspirer de la mode de l'art nègre et de présenter un spectacle d'artistes noirs. Davenne souhaite y ajouter du jazz, alors en pleine ascension. C'est alors qu'a surgi peu après dans son bureau Caroline Dudley pour lui proposer justement de produire avec son mari Daniel Regan une telle revue et Davenne lui a donné carte blanche. Elle s'est donc rendue à New York afin de constituer sa troupe. De la jeune Joséphine Baker, repérée au cabaret The Plantation, Caroline dira « Elle n'était pas la plus jolie des 8 danseuses, mais la plus drôle. » Convaincre des artistes afro-américains de traverser l'Atlantique vers un pays dont ils ne parlent pas la langue n'est pas si aisé. Ethel Waters, étoile du cabaret, est pressentie comme vedette du futur spectacle, mais elle refuse de faire le voyage. Chez Joséphine, en revanche, il n'y a guère d'hésitation, comme elle le racontera à la radio en 1953.
Un jour de septembre, j'ai quitté l'Amérique du Nord par un temps brumeux et je suis arrivée en France avec le soleil de France dans mon cœur.
Et qu'est-ce qui vous avait décidé à quitter l'Amérique du Nord et à traverser l'Atlantique?
Eh bien, monsieur, parce que je savais, par mes parents qui sont de la Martinique d'origine, qu'en France, j'aurai la liberté d'esprit et de corps.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet.
Thank you.
La troupe de 25 artistes afro-américains, 13 danseurs et 12 musiciens, vêtus de tenues bigarrées, débarque à Cherbourg le 22 septembre 1925, après 7 jours de traversée en paquebot. Elle est accueillie à la gare Saint-Lazare par la direction du théâtre qui l'y conduit sans tarder avenue Montaigne. Au bout de 2 jours de répétition, Rolf Demarais et André Daven ne sont pas convaincus. Malgré les nombreux talents de la troupe, le spectacle conçu et mis en scène par le danseur-chorégraphe Louis Douglas manque de construction et n'est pas présentable. Il comporte à leurs yeux trop de chants de blues et de numéros de claquettes auxquels les Parisiens ne sont pas habitués. Daven fait alors appel à son ami Jacques Charles, concepteur renommé de revues à grand spectacle pour le Casino de Paris et le Moulin Rouge, qui accepte de collaborer à cette production sans que son nom apparaisse. En quelques jours, il observe ce que font les artistes, puis recompose l'ordre des tableaux en s'inspirant de ce qu'il avait eu l'occasion de voir à Harlem les années précédentes. Il rhabille en partie la troupe avec des frusques achetées au marché aux puces et il place les chorégraphies sous le signe de Charleston, la nouvelle danse en vogue. Au départ, la vedette du spectacle est une chanteuse de blues new-yorkaise nommée Maud de Forest. La jeune Joséphine Baker est dans le rang des danseuses de Charleston et ne fait pas partie des vedettes du spectacle. C'est durant les répétitions que les deux directeurs, ainsi que Paul Collin, un jeune peintre qui travaille alors comme affichiste et décorateur pour le théâtre, remarquent sa silhouette, son charme et son agilité. Ils parviennent à rétrograder Maud de Forest, jugée moins gracieuse, en deuxième vedette, afin de faire émerger Joséphine en première vedette. Ce changement important dans la distribution et la conception des tableaux conduit le théâtre à repousser la date de la première représentation. Jacques Charles dira dans ses mémoires que c'est lui qui a décidé de mettre Joséphine en avant et qu'il lui a demandé de danser nue. Quoi qu'il en soit, il faut beaucoup de persuasion de la part de l'équipe pour la convaincre de se déshabiller. Chacun s'y met. Louis Douglas, mais aussi Jacques Charles et Paul Collin, qui est tombé sous son charme et la fera même venir comme modèle dans son atelier. Joséphine s'en souviendra en compagnie de son ami biographe Marcel Sauvage lors de la sortie de la deuxième version de ses mémoires en 1949.
Ah oui, c'était une époque merveilleuse, tu t'en souviens, José?
Oh, je pense bien.
Parce que tu as été immédiatement, tu as attiré l'attention immédiatement et Paul Collin, je m'en souviens fort bien, m'a dit « Mais elle est extraordinaire cette danseuse, il faut absolument qu'on la sorte, qu'on fasse un grand personnage parisien » car Paul Collin a joué un rôle considérable dans
je
ta carrière.
Je pense bien. Et tu te souviens aussi que, oh, le grand scandale dans notre troupe parce que Collin l'a dit « En fait, déshabillez-vous, petit à petit. » Parce qu'il voulait me dessiner, vous vous souvenez?
Oui, c'était...
Et alors, toutes les filles disaient, enfin, toutes nues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est scandaleux, etc. L'autre, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on me fait de moi? Et je n'ai jamais rêvé que, pourquoi que les gens puissent trouver enfin, des gens, enfin, tas de petits endroits de mon corps intéressant.
Tandis que maintenant, comment? Mais si, je proteste alors. Tandis que maintenant, tu es habillée d'une façon magnifique, évidemment, le personnage a changé du
moi,
tout au
tout. Moi, j'aime mieux ça.
Thank you.
Paul Colin racontera volontiers par la suite ce que la Revue Nègre a apporté à sa carrière d'affichiste et de décorateur, comme ici en 1968 sur France Inter.
J'ai fait l'affiche de la Revue Nègre. C'est la première qui a été imprimée, car je faisais des affiches qui étaient exposées à la Porte du Théâtre, qui n'étaient pas imprimées. J'en faisais 12 par mois pour la Porte du Théâtre. Et alors, ma première affiche imprimée, c'est l'affiche de Joséphine, qui a, je dois dire, été pour moi un point de départ fulgurant, parce que c'était l'apparition du jazz. On était pour ou on était contre, il faut dire qu'il y en avait beaucoup plus qui étaient pour que contre, mais il y a eu des claquements de portes, enfin, il y a eu des révoltes dans le théâtre.
À ce point,
ah oui, à ce point. Et à l'orchestre, il y avait Sidney Bechet, d'ailleurs. La vedette, c'était Maud de Forest. Et en réalité, Joséphine était girl, et influencée par nous autres, et un peu par moi, d'ailleurs, quand je l'avais eue chez moi, où elle était venue poser pour son affiche, nous avions influencé l'impresario pour lui dire, mais cette noire, qui est belle, qui avait un corps sculptural, aura beaucoup plus de succès que la vedette réelle qui ne chantait que des spirituels. Alors on a fait travailler le rôle de vedette à Joséphine. On a organisé une grande soirée, plutôt une nuit, pour avoir tous les gens de théâtre à 1h du matin. Et le lendemain, après la fête, et unanimement dans la presse, les journalistes disaient « La Vénus noire est à Paris », c'était Joséphine. Et c'était le départ de Joséphine, et grâce à son affiche, c'était aussi le mien.
Il faut tout de même préciser que cette fameuse affiche a été très inspirée à Paul Colin par les maquettes du peintre mexicain Miguel Covarrubias, ami de Caroline Dudley, qu'il a recruté à New York pour imaginer tous les décors de la Revue Nègre. La danseuse noire, qui en est le sujet central, ne ressemble d'ailleurs pas particulièrement à la jeune Joséphine Baker, dont la photo figure pourtant bien en vedette dans le programme. Quant aux costumes du spectacle, ils ont été dessinés par Caroline Dudley et sa sœur Dorothy, ainsi que par Susan Smith. L'avant-première de la Revue Nègre, réunissant la presse et une cinquantaine de personnalités parisiennes influentes, est organisée le 28 septembre 1925 à 00h30, suivie d'un souper donné sur la scène du théâtre par Rolf Demarais et un grand bal mondain avec les artistes de la troupe. Les échos dans les jours suivants dépasseront les espérances des directeurs.
But this morning there was a vacancy. No mingling, no jingling coy. No picking on chicken folks up tenderloin. Soon I hear the New Year chimes. That just means more hard times. Bad luck, your heart to lose. I got the Santa Claus blues.
Première représentation pour le grand public a lieu le vendredi 2 octobre. Fidèle à l'esprit des spectacles de music hall de l'époque, la première partie du programme voit se succéder une dizaine d'attractions diverses qui vont changer au fil des semaines. Le fantaisiste Saint-Granier, le chanteur Gabaroche, le chorégraphe et ancien danseur vedette des ballets suédois Jean Berlin ou la chanteuse réaliste Damia. Joséphine regarde d'ailleurs ces numéros avec fascination, cachés dans le rideau de scène afin de connaître les artistes européens.
Est-ce que vous avez conservé quelques souvenirs de ces premières représentations?
Eh bien oui, j'ai gardé un souvenir par la force des choses, puisque un de ces souvenirs, c'était Damia. Damia chantait si joliment, avec sa grande robe noire, mouchoir de couleur, et son visage plein de peine. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais j'ai deviné, malgré tout, c'est sa voix qui me faisait pleurer au coin de la rue. De la scène, et Saint-Granier aussi, je l'admirais tant, et je l'admire toujours, toujours. Et à cause de eux, j'ai attrapé la pneumonie. Et j'ai resté 3 mois au lit. Vous voyez, je les aimais beaucoup.
Mais pourquoi à cause d'eux?
Parce que j'ai attrapé un courant d'air. d'avoir resté chaque jour, chaque soir, disons-nous, au coin de la Seine, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Et il y avait un courant d'air terrible au Théâtre des Champs-Élysées. Mais malgré que j'étais fatiguée et je me sentais fiévreux, j'ai resté pour les entendre. Et ça m'a coûté 3 mois de lit.
Mais j'ai dû l'entendre, c'est lui quand nous nous aimions, c'est lui que nous pardonnions. Depuis, notre amour a brisé sa chaîne. Alors au plaisir, le soir je m'entraîne. J'essaie de rire et chanter, de boire afin d'oublier. Non, je ne veux plus penser aux mensonges du passé, mais mal à ces refrains perfides. Pour oublier, que dis-tu, il faut boire. Eh bien, j'ai bu, maintenant je n'en peux plus, ma tête est vide. Ce chant m'écrase le cœur. Fantôme, il est là qui hante ma vie. Je sens au cerveau monter la folie. Pourquoi t'acharner sur moi? Par pitié,
c'était Damia, la grande tragédienne de la chanson, vêtue d'une robe fourreau noire, interprétant Antise, l'une de ses créations sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées en octobre 1925. Après les différentes attractions de première partie, l'entracte est animé par le fameux jazz nègre qui joue les airs en vogue à New York. Arrive enfin la seconde partie de soirée à 22h30 avec la Revue Nègre, mise en scène par Louis Douglas, qui va durer près d'une heure. Le morceau d'entrée, joué par l'orchestre du Théâtre des Champs-Élysées, est déjà un classique de la musique de jazz américain, puisqu'il a été composé en 1917 par Spencer Williams, pianiste et compositeur noir originaire de la Nouvelle-Orléans, qui a fait une riche carrière à Chicago puis à New York. C'est à lui qu'a été commandée la plupart des musiques de la Revue Nègre, et il a fait le voyage avec la troupe jusqu'à Paris. Thank you. premier tableau de la Revue Nègre, intitulé Mississippi Steamboat Race, évoque une traditionnelle course de bateaux à roues sur le fleuve Mississippi. Il présente successivement plusieurs chansons dans un décor de nuit, avec des bateaux à vapeur et des hommes assis sur le quai sur des balles de coton. Entrent alors 9 femmes, vêtues de robes aux couleurs vives, qui se mettent à danser. Joséphine participe à certains numéros suivants de ce tableau, comme Boodle Am avec Honey Boy et les mêmes 9 danseuses des Charleston Steppers. En voici l'enregistrement réalisé quelques mois plus tard par son créateur au disque, l'orchestre noir de Clarence Williams et son Washboard Band. Toujours dans ce premier tableau de la Revue Nègre consacré aux échos du Mississippi, Marion Cook chante ensuite le célèbre Swanee River ou Old Folks at Home, l'un des rares morceaux du spectacle qui ne soit pas signé Spencer Williams ou Jack Palmer. Cette chanson, écrite et composée en 1851 par Stephen Foster pour une troupe de minstrels new-yorkais, devint plus tard une sorte d'hymne pour l'État de Floride. Les paroles originelles sont une évocation des Noirs qui travaillaient alors comme esclaves dans les plantations. Marion Cook n'ayant pas enregistré de disque, voici ce grand classique américain par Arabella Fields, surnommé le Rossignol Noir, qui fit l'essentiel de sa carrière en Europe au début du XXe siècle.
France Musique, Tour de chant, Martin Penney.
Sing a song
Après Marion Cook, c'est Maud DeForest, la chanteuse de blues habituée des scènes new-yorkaises, initialement prévue comme vedette du spectacle, qui entre en scène pour interpréter « Everything, my sweetie does ». Faute de traces sonores de cette chanson, je vous propose de découvrir la voix prenante de Maud DeForest dans « Roaming Blues », l'une des quatre faces de 78 tours qu'elle a enregistrées, publiée en 1923, où elle est accompagnée au piano par Fletcher Anderson.
It's a real fact, and everybody knows I've got to change my climate, or else change my clothes. I came to this town 1 year ago, all out and down, the ground full of snow. My man has quit me, that's why I want to go. Got the roaming blues. I want to roam away from here. I don't like this town. My baby's thrown me down. I'm going to catch a train, a real fast train, never to return again. I've got my satchel back, and when I come back, it'll be one turkey buzz that's learned to fall a jack. I've got a real bad case of the roaming, roaming blues.
Ce long tableau d'introduction sur le Mississippi amène ensuite sur scène Joséphine Baker, se dandinant, les genoux écartés, portant un petit tablier à carreaux et des vêtements en lambeaux pour interpréter « I Want to Yodel » signé Spencer Williams. C'est d'ailleurs le seul moment du spectacle où elle chante. Par chance, ce titre figure parmi les toutes premières phases de 78 tours qu'elle gravera chez Odéon en septembre 1926. Comme beaucoup de ceux entendus précédemment, il s'agit encore d'un enregistrement acoustique, donc effectué sans microphone, mais il est très précieux. Parmi les spectateurs de ces soirées passionnantes se trouvent souvent Darius et Madeleine Millot, mariés depuis peu. Cette dernière racontera ses souvenirs sur France Musique en 1988 dans l'émission Portrait en concert.
Moi, je n'ai vu que la Revue Nègre, qui était extraordinaire. C'était l'arrivée de Joséphine Baker à Paris. Ah, oh, ça, c'était étonnant. C'était au Théâtre des Champs-Élysées. Nous sommes allés tous les soirs. Bon, nous sortions, nous allions dîner chez des amis. Nous ressortions tôt, nous nous regardions et on filait la Revue Nègre. C'était pas une très grande compagnie. Ça avait été monté par deux dames de Chicago qui avaient beaucoup de goût. Je pense que c'est une des premières fois où on assistait à des spectacles de claquettes aussi. Et puis il y avait Joséphine Baker. On peut pas imaginer ce que cette femme, on pouvait même pas l'appeler une femme en fait, ce que ce personnage était à cette époque-là. Un corps d'acier huilé, aussi belle qu'une statue grecque. Elle incorporait la jeunesse, la force et une voix d'oiseau. Un visage, les yeux écarquillés comme en Gollywog, ses accroche-cœurs collés contre les tempes. Incroyable. Elle dansait, elle chantait de cette petite voix aiguë, extraordinaire. Elle n'était pas très loin de l'affiche de Colin que l'on connaît.
Ce long tableau sur le Mississippi se conclut par une danse endiablée réunissant Beatrice Foote, Honey Boy, Maud de Forest, Joséphine Baker et les Charleston Steppers. Ensuite, le deuxième tableau de la Revue Nègre évoque les gratte-ciels de New York dans un beau décor de Covarrubias avec Sidney Bechet dans le rôle du saxophoniste. Il s'en souviendra en 1950 au micro de Pierre Minet pour le poste Paris Inter.
En 1925, Bechet appartenait à la troupe de Caroline Dudley et apparaissait sur la scène du théâtre des Champs-Élysées en poussant une voiture d'enfant et jouant de la clarinette. C'est bien ça, n'est-ce pas, monsieur Bechet?
C'est bien vrai, c'est bien vrai. Je pousse le petit wagon, je vends des bas, des oranges, des conduits, des affaires comme ça.
Et vous jouiez en même temps la clarinette?
Oui.
Et vous aviez un grand succès à chaque fois, je crois.
Beaucoup, je croyais.
Était-ce la première fois que vous veniez à Paris?
La première fois que je viens à Paris, c'est 1921.
Et vous faisiez partie d'un orchestre de jazz déjà?
Oh oui, je jouais au théâtre Apollo.
Oui, dans une troupe,
oui.
Jazz.
Oui, comme 6 ou 7 musiciens.
Oui. Et je voulais vous demander ceci, est-ce que vous tous, les musiciens et les danseurs de la Revue Nègre, est-ce que vous avez eu peur de l'accueil de Paris? Est-ce que vous avez eu le trac?
Ah oui, on a toujours peur.
Oui.
Parce que, vous comprenez, on ne sait pas si le public, on va aimer le...
Le va aimer le jazz, d'autant plus que c'était la première fois ou à peu près à Paris qu'on entendait du jazz.
C'est ça.
Thank you.
C'était Kansas City Man Blues, le tout premier enregistrement réalisé par Sidney Bechet en 1923 au sein de la formation de Clarence Williams and His Blue Five. Très en avance dans sa façon de jouer, avec un vibrato caractéristique, il était à la clarinette et au saxophone soprano. Le troisième tableau de la Revue Nègre évoque un rassemblement au camp de la Louisiane. Initialement conçu comme une scène de cimetière stylisée, ce tableau a été modifié in extremis en raison de superstitions dans la troupe. Le cimetière figurant sur la maquette de Covarrubias a alors été remplacé par une église. Tous les artistes y participent tour à tour, y compris le compositeur Spencer Williams. Joséphine apparaît dans le numéro « A Lover Quarrel ». Le quatrième tableau de la revue, intitulé « Les Strutting Babies », est dédié aux Charleston Steppers avec « Honey Boy ». Tous ces tableaux, censés évoquer la vie des Noirs en Amérique, alternent chants et danses excentriques. Joséphine Baker et le danseur de claquettes Louis Douglas y occupent des places de choix avec des numéros en solo. Joséphine occupe ainsi toute seule le cinquième tableau, « Darky Impressions », ce qui signifie « impression nègre », et Louis le sixième tableau avec « Les pieds qui parlent ». Le septième et dernier tableau de la Revue Nègre, intitulé « Charleston Cabaret », est un grand final dédié aux danses de Harlem menées par le Charleston Jazz Band. Le rideau de fond de scène, dessiné par Covarrubias, est en partie masqué de chaque côté par des tentures noires brillantes et de grands bananiers. Les six musiciens, parmi lesquels figure Sidney Bechet, sont dirigés par le pianiste Claude Hopkins, le directeur musical de la revue, surnommé « Crazy Finger », les doigts fous. Ce final comprend six numéros exécutés tour à tour par les Charleston Steppers et les différentes vedettes du spectacle. Certaines des danseuses sont assez déshabillées et portent de grands colliers. Joséphine Baker y danse « Give me just a little bit » et surtout le numéro de la danse de sauvage, un pas de deux imaginé par Jacques Charles en forme de danse acrobatique suggérant un accouplement avec Joey Alex. On en connaît juste une photo montrant Joséphine quasiment nue, perchée sur le dos de son partenaire musclé, la tête vers le bas et agitant les jambes. Elle porte une simple culotte de satin, une ceinture de plumes de couleur, ainsi qu'un col de plumes et des bracelets de plumes aux chevilles. Je vois vos froncements de sourcils, mais patience, la célèbre ceinture de banane, ce sera pour la prochaine émission. Joey Alex a aussi des plumes autour des hanches, ainsi que des perles autour du cou et des chevilles. Une fois déposée à terre par son partenaire, Joséphine exécute un genre de danse du ventre, puis lève brusquement ses bras entrelacés en un simulacre phallique qui provoque des remous parmi les spectateurs. Certains sont choqués, commencent à siffler et quittent la salle. Faute d'enregistrement réalisé à cette époque par l'orchestre de Claude Hopkins, voici un titre gravé en janvier 1925 par celui du pianiste Clarence Williams, dont faisaient partie Sidney Bechet au saxophone soprano et Louis Armstrong à la trompette.
Est-ce que vous vous souvenez des réactions du public au cours de ces premières représentations de la revue nègre, puisque vous apportiez une espèce de petite révolution, en tout cas la découverte du jazz et du style New Orleans, n'est-ce pas, d'Armstrong. Je sais que tout de suite vous avez eu un public tout à fait fanatique, et puis aussi probablement qu'il y a eu des gens qui réprouvaient un petit peu, qui étaient hostiles, qui s'écartaient de cette nouvelle forme d'art et de ce rythme entièrement nouveau.
Bien sûr, monsieur, vous avez compris bien la situation. Du reste, mon premier soir, je ne savais pas si j'avais du succès ou pas, parce que les gens, moitié de la salle, criaient, embossaient. Et j'avais su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants et toutes les jeunes gens, criaient succès. Et ceux qui sifflaient, j'avais cru, moi, que c'était du succès. Et après, j'ai compris que c'était de catastrophe. Et ceux qui combattaient, qui criaient bravo, c'était des jeunes, parce qu'eux trouvaient que c'était un nouvel style.
La revue nègre est donc un choc pour le public qui fréquente le théâtre des Champs-Élysées et les critiques sont assez partagées. Les plus conservateurs y voient une sorte de spectacle décadent en insistant sur son caractère racial. Mais en déplorant le côté sulfureux de cette revue nègre, il lui assure en réalité une excellente publicité. Débutée le 2 octobre 1925 et prévue initialement pour 2 quinzaines, elle sera prolongée jusqu'à la fin novembre, puis au Théâtre de l'Étoile jusqu'au 17 décembre. Après quoi, elle partira en tournée à Bruxelles, puis à Berlin, où elle fera tout autant sensation. Mais avant son départ, Joséphine Baker est repérée par Paul Derval, le directeur des Folies Bergères, qui tient à faire d'elle la vedette féminine de sa future revue du printemps 1926, intitulée « La Folie du jour », et lui fait secrètement signer un contrat d'engagement. Après le public choisi du Théâtre des Champs-Élysées, il s'agira cette fois de la faire connaître à un public plus large. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Tour de chant, une émission de Martin Penney avec le concours de Jeanne Lerche à la préparation, Pierre-Henri au mixage, Noé Mignard à la réalisation. Merci à Marie Chauveau et Mylène Touchet pour les archives de l'INA.
France Musique.